Il est 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Choubet.
Il a été question il y a quelques semaines du programme économique de Donald Trump et aujourd'hui l'analyse des enjeux internationaux se penche sur celui de la candidate démocrate Hillary Clinton.
Voilà, avec notre invité Lionel Escafre, bonjour.
Bonjour Thierry.
Alors vous êtes professeur à l'Université d'Angers, commissaire aux comptes. Si l'on voulait être polémique, on dirait que les Américains, qui donnent d'ailleurs une vision tout à fait nauséabonde de leur système politique en ce moment, cette période électorale, ont le choix entre deux animaux politiques, encore que M. Trump ne soit pas très politique. Deux hommes politiques, pourrait-on dire, et puis deux républicains. Il y a souvent une feuille de papier à cigarette qui les sépare. Je retire cette observation polémique. Alors, Madame Clinton est réputée servir les intérêts du grand capital, des banques, du monde financier. Alors, il faut se pencher sur son programme économique. Est-ce qu'il est bien défini? Si oui, en quoi celui-ci se distingue-t-il du programme de son adversaire républicain, Donald Trump, lequel déroge lui-même et largement au sacro-saint principe du parti républicain? Et puis, on prête à Madame Trump quand même un tropisme plutôt social puisqu'elle a vaillamment combattu pour la protection sociale de son pays, notamment lorsqu'elle était sénatrice et évidemment on pense tout de suite à l'Obamacare récent. Alors, quels sont les axes de son programme, Lionel Escafre ?
Alors, je dirais que Hillary Clinton a en réalité quatre grands axes sur son programme économique. Un programme économique finalement assez traditionnel dans l'esprit démocrate et dans l'esprit aussi keynésien, puisqu'on a un retour premièrement des grands investissements. Hillary Clinton souhaite un budget de l'ordre de 275 milliards de dollars. Alors, pour que nos éditeurs comprennent bien le sujet, ça veut dire que c'est un investissement de l'ordre d'un tiers de ce qui est nécessaire pour les infrastructures américaine, puisque on considère, il y a un certain nombre d'universitaires qui se sont penchés sur le sujet, qu'il y a un manque et en tout cas un retard d'investissement d'infrastructures américaines en termes de 1000 milliards de dollars, ce qui est quand même assez considérable. Deuxième sujet, une politique fiscale assez redistributive, puisque ce qui est souhaité par Hillary Clinton, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la Buffett Rule, c'est-à-dire en fait un impôt de 30% pour tous les contribuables qui ont un revenu annuel de plus d'un million de dollars par an. Ce qui veut dire qu'on aurait en fait une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu.
C'est une sorte de forfait
en réalité qui s'appliquerait automatiquement sur des revenus qui dépasseraient le montant d'un million de dollars. Et puis troisième aspect important qui contribue finalement au financement de ce programme, c'est la volonté finalement de développer des accords économiques, mais en fait avec une volonté de renégocier tous les accords économiques. Alors ce qui est assez curieux, c'est que historiquement, si on prend par exemple l'accord transatlantique, Hillary Clinton y était favorable. Elle n'y est plus. Elle souhaite aujourd'hui renégocier le traité transaméricain qui...
Transpacifique,
effectivement, mais aussi transaméricain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il y a de ce point de vue, d'ailleurs, un positionnement d'Hillary Clinton qui est peut-être une posture, d'ailleurs, électorale, parce qu'il n'est pas certain qu'une fois présidente, elle ne souhaitera pas, en fait, relancer notamment les négociations avec l'Europe.
Oui, parce qu'elle avait vraiment beaucoup défendu le partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, qui est presque suspendu, pourrait-on dire, en tout cas, qui va très mal
tout à fait.
Le transatlantique. Là, maintenant, elle est contre, et on peut effectivement se demander si elle ne redeviendra pas pour une fois élue.
Exactement, voilà. Ce qui est assez... Alors, c'est effectivement ce positionnement-là. Il y a un autre aspect quand même qui est important, et là, elle rejoint bien l'axe de Barack Obama, c'est que dans ses propos, et de manière même... si on voit même sa vision à long terme du positionnement des États-Unis dans les échanges internationaux, on voit bien qu'elle souhaite toujours affirmer la place des États-Unis dans le Pacifique. Et il y a un plus grand positionnement aujourd'hui dans sa campagne de mettre les États-Unis vers le Pacifique, vers l'Asie plutôt que vers l'Union européenne. Je prends souvent cet exemple quand elle a écrit ses mémoires lorsqu'elle était secrétaire d'État aux affaires étrangères. La position de l'Europe, c'est à peine un chapitre, alors que la position aujourd'hui, les rapports entre les États-Unis et le Pacifique comportent, je crois, presque une dizaine de chapitres. Ce qui montre bien aujourd'hui l'orientation de la politique étrangère que souhaite mener Hillary Clinton.
Ça recoupe la politique de pivot qui avait été annoncée, d'ailleurs, et par elle, d'abord par elle, ensuite par le président Obama il y a quelques années.
Exactement. Alors, je voudrais quand même revenir sur un autre point qui est quand même la politique sociale. Parce qu'il y a une volonté de développement de la politique sociale par Hillary Clinton sur deux axes. Le premier axe, c'est la volonté de remonter le salaire minimum fédéral. Aujourd'hui, le salaire minimum fédéral est entre 7 et 10 dollars de l'heure, selon les différents États. On a aujourd'hui un parti démocrate, comme d'ailleurs sa leader, qui souhaite le monter à 12 dollars, ce qui est assez significatif, et c'est un souhait d'ailleurs qu'on retrouve dans une grande partie de la population américaine.
Et puis, ce qui est faisable techniquement, ou c'est un effort important?
Ce qui est techniquement faisable si la politique fiscale redistributive est mis en place. Et il y a un deuxième aspect, c'est le crédit d'impôt famille. Il y a une politique familiale aux États-Unis qui est très faible, et il y a une volonté aujourd'hui de créer un crédit d'impôt à hauteur de 10% des revenus par ménage, qui permettrait évidemment de renforcer la natalité, ce qui est aussi un souhait du programme d'Hillary Clinton. Et dernier sujet quand même, le coût des études pour les étudiants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dette d'un certain nombre d'Américains liés à leurs études supérieures est considérable.
On peut donner un ordre de grandeur, par exemple, dans une grande université?
Dans une grande université, on peut arriver à des montants ou à des coûts d'inscription par an entre, je dirais, 25 à 40 000 euros, équivalent 40 000 euros par an, ce qui représente quand même une contribution qui dépasse largement des familles aisées. Et donc, il y a une volonté aujourd'hui d'Hillary Clinton de contribuer au financement des études supérieures de manière évidemment à alléger cette dette individuelle pour l'ensemble des Américains.
Les Américains, grosso modo, évidemment, vivent toujours à crédit?
C'est le pays du crédit revolving, c'est-à-dire en fait c'est effectivement le pays du financement. À partir du moment où vous êtes capable de rembourser 100 dollars, on est capable à ce moment-là de vous en prêter 100 de plus. Donc effectivement, il y a une dette par ménage aux États-Unis qui ne cesse d'augmenter, ce qui est un sujet important, parce que si effectivement le programme aujourd'hui démocrate est un programme qui finalement oriente les recettes fiscales pour ces investissements dont je parlais en début de la présentation, on arrive évidemment à une certaine stabilisation de la dette, mais la stabilisation de la dette se fait probablement aux dépens d'une augmentation progressive des dettes individuelles de chaque Américain. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un effet de vase communicant entre la maîtrise de la dette publique de l'État fédéral et à côté, une augmentation croissante de la dette individuelle de chaque Américain.
L'endettement des ménages.
Absolument, l'endettement. Alors, des ménages.
Juste d'un mot, Lionel Escaf, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Angers et commissaire aux comptes. Juste d'un mot, c'est un pays, évidemment, les États-Unis, qui a toujours ce boulet donc au pied, c'est-à-dire la pauvreté, la grande pauvreté. Jacques Munier, à l'instant, en parlait, la lutte contre la pauvreté. Si mes souvenirs sont bons, 43 millions d'Américains vivent au-dessous du seuil de pauvreté.
Absolument. Alors même si on estime que l'Obamacare sort probablement peut-être une dizaine de millions d'Américains de la grande pauvreté et notamment leur permettre de bénéficier d'une couverture maladie, ce qui peut-être étonner par rapport à la campagne d'Hillary Clinton, c'est qu'elle ne parle très peu du medical care. Et c'est étonnant puisqu'elle est à l'origine, en réalité, de
comme
ce projet.
Comme sénatrice, elle avait été très courageuse.
Exactement. Et il faut se souvenir même que quand elle était dans les primaires américaines contre Barack Obama, elle était beaucoup plus agressive et beaucoup plus ambitieuse sur ce sujet. Aujourd'hui, dans le cadre des élections, on constate qu'Hillary Clinton est beaucoup plus timorée sur ce sujet du medical care.
Voilà, merci beaucoup Lionel Escaf, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger.